Chapitre 25. Didi fut surprise d'entendre frapper à sa porte en milieu de matinée. Instinctivement, son regard se dirigea vers Phil et Neil, assis en face d'elle dans le séjour. Tous deux avaient des carnets de notes sur les genoux et un grand tableau de conférence trônait au milieu de la pièce, noirci d'annotations au feutre. « Tu veux que j'aille ouvrir ?» proposa Phil. « Non, laisse. » Elle se leva lentement, en retirant la poche de glace de son épaule. Alex l'avait quittée aux aurores pour aller donner ses cours à l'école de police. Ensuite, il avait l'intention de passer chez ses parents, récupérer Jack. Jamais ils n'avaient été séparés de leur fils aussi longtemps, et il leur manquait terriblement à tous les deux. Didi se dirigea vers la porte d'entrée avec une appréhension croissante. Elle avait demandé à Alex de lui laisser son Glock, le chargeur plein. Elle saurait tirer d'une main. Ce ne serait peut-être pas idéal, mais tant qu'elle visait le tronc, elle devait réussir son coup suffisamment pour ralentir l'adversaire. Ensuite, il n'y aurait plus qu'à continuer à appuyer sur la détente. Son ami et ancien tireur d'élite Bobby Dodge tuait peut-être d'une seule balle, mais Didi n'en avait que faire du moment qu'elle était la dernière encore debout. Elle arriva à la porte. Pas l'arme à la main, vu qu'elle avait deux collègues pour assurer ses arrières. Mais elle pliait et dépliait nerveusement les doigts en collant un œil au judas pour regarder dehors. Le docteur Glenn attendait sur son paillasson. « En voilà une surprise », pensa Didi en tirant le verrou. « Désolée de vous déranger », dit Adeline sans préambule. « Mais je viens d'aller voir ma sœur et j'espérais pouvoir vous parler. » « Vous avez discuté avec votre sœur en notre absence ?» Le regard d'Adeline se porta derrière Didi, vers le séjour, où ses collègues étaient bien en vue. Didi s'efforça de ne pas rougir, comme si elle était prise en faute. « Nous, c'est notre métier », dit-elle pour se justifier. Que ses collègues et elle continuent à enquêter sans Adeline, cela n'avait rien à voir avec le fait qu'Adeline continuait à enquêter sans eux. « Vraiment ? Votre épaule va mieux ? On vous a autorisé à reprendre le travail ?»« Oh, et puis zut !» Didi jeta l'éponge. « Entrez. Oui, nous faisions le point sur le meurtre d'hier soir. Et non, je ne suis pas en fonction, et je vous jure que ce n'est pas pour cette raison que Phil et Neil ont décidé de passer me voir. Cette visite n'a aucun rapport avec le fait que, officiellement, je suis en arrêt maladie. Mais le café est meilleur ici. C'est bien ça, les gars. » Phil et Neil confirmèrent. Phil se leva, serra la main d'Adeline et la présenta à Neil. Didi ne fut pas étonnée du regard dubitatif qu'Adeline jeta sur le benjamin de l'équipe. Avec son physique dégingandé et sa tignasse rousse, Neil avait des allures d'éternel adolescent, ce qui était bien pratique pour les interrogatoires. Les suspects prenaient rarement cet enquêteur chevronné au sérieux avant d'en avoir trop dit. Puis, le regard de la psychiatre tomba sur le chevalet et le tableau, divisés en trois colonnes, une pour chaque victime. Elle blêmit, mais surtout son expression se figea, devint clinique. Elle prenait ses distances avec les détails poignants énumérés sur le papier. « Alors, quoi de neuf, docteur ?» ne put s'empêcher de demander Didi. « C'est du café ? J'en prendrai volontiers une tasse. » Phil se chargea de lui en servir une. La dernière fois que Didi avait essayé, elle avait versé à côté. Tirer au pistolet à une main, ça irait. Mais servir une tasse de café, bonjour les dégâts. C'est vous qui avez appelé votre sœur ou c'est elle qui a pris l'initiative ? Demanda Didi. Elle s'assit sur une des chaises de cuisine que Neil avait apportée dans le salon et invita Adeline à se mettre à son aise sur le canapé. À la première heure ce matin, elle a fait part à la directrice de son désir de me voir. J'ai pensé qu'elle mijotait quelque chose, qu'elle avait appris le dernier meurtre et qu'elle était prête à fournir de nouveaux renseignements en échange d'une permission de sortie. « Totalement exclu, » dit Didi. « Vous lui avez déjà dit hier, il me semble. » « On ne peut pas lui en vouloir de poser la question. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas exactement le tour qu'a pris notre conversation. Je vois. Didi se pencha vers Adeline, curieuse d'entendre la suite. Neil et Phil en firent autant. Shanna prétend qu'elle n'est en contact ni avec le tueur à la rose, ni avec personne d'autre. Pas de réseau clandestin d'espions, pas de fans en adoration à l'extérieur de la prison. Pour accomplir une telle prouesse, il lui faudrait des appuis au sein de l'établissement. Or, comme elle le dit, elle n'a pas d'amis. Nous le savons tous. Didi tika. Elle s'attendait à tout sauf à ça. Nier est évidemment dans son intérêt. Comment explique-t-elle le fait qu'elle ait été si bien renseignée? Don d'observation. Pardon? 30 ans passés à l'isolement. Elle n'avait rien de mieux à faire que d'observer ses semblables. Plutôt qu'un génie du crime, c'est Sherlock Holmes. Phil poussa un grognement de dédain.
Comment connaît-elle le chiffre magique? Demanda-t-il sans dissimuler son scepticisme.
Quand elle était adolescente, elle a fait des recherches sur notre père en bibliothèque. D'après elle, elle a découvert qu'il possédait une collection de 153 lambeaux de peau simplement en consultant les archives de la presse locale, ce que le tueur à la rose a très bien pu faire de son côté. J'avais essayé de regarder sur Google, mais rapidement. D'après ma sœur, l'information est disponible pour qui veut fouiller.
Comme par ailleurs il est évident que le tueur imite notre père, il paraît logique qu'il en profite pour faire un geste spectaculaire, comme de retirer précisément 153 lanières de peau en guise de coup de chapeau au maître.
Shanna prétend qu'elle ne savait pas, à proprement parler, qu'il faisait cela. Simplement, elle s'y attendait. Après tout, elle connaît mieux que personne le fonctionnement d'une âme criminelle. « C'est le moins qu'on puisse dire », ironisa Didi. L'ennui, c'est qu'elle a ajouté que le tueur devait aussi avoir pris ses renseignements sur moi. La fille de Harry Day, qui plus est atteinte d'une maladie génétique rare. Ma simple existence l'attirerait, et ça aurait pu le pousser à venir à mon cabinet, peut-être même à s'introduire chez moi, en se faisant passer pour un livreur, par exemple. « Pardon ?» l'interrompit Didi. Après ma conversation avec Shanna, j'ai appelé le gardien de mon immeuble pour lui demander si quelqu'un était entré chez moi ces derniers mois.
« À part l'employé du gaz, vous voulez dire ?»
m'a répondu Monsieur Daniels. J'ai appris qu'il y a quelques semaines, un agent en uniforme s'était présenté en affirmant qu'on avait signalé une possible fuite à mon étage. On lui a évidemment ouvert ma porte et, vu les risques, Monsieur Daniels a attendu dans le couloir. D'après lui, cette personne n'est pas restée très longtemps chez moi. Mais il a été incapable de me préciser ce que « pas très longtemps » voulait dire. J'ai tout de suite appelé le fournisseur de gaz. Ils n'ont aucune trace d'une telle demande d'intervention ni du passage d'un agent chez moi.
« Mais M. Daniels a vu cette personne ?» demanda aussitôt Phil. « Il pourrait nous fournir un signalement qui nous confirmerait que notre individu est un homme ?»
Adeline ne répondit pas tout de suite.
« Je le crois pas », murmura Phil en lisant la réponse sur son visage.
« À vrai dire, commença-t-elle.
« Je le crois pas !»
Après mûre réflexion, M. Daniels ne sait plus très bien qui il a vu. L'employé portait une casquette vissée sur le front et tenait son écritoire bien haut. En réalité, M. Daniels n'est même pas certain d'avoir vu son visage. Donc, cet employé pourrait être aussi bien un homme qu'une femme ? Demanda Didi, un peu déboussolée. Adeline haussa les épaules. Monsieur Daniels avait l'impression qu'il s'agissait d'un homme. J'ai essayé d'insister aussi subtilement que j'ai pu sans influencer son souvenir. Pas quelqu'un de très grand, donc la taille et la stature seraient compatibles avec l'un ou l'autre sexe. Mais une voix bourrue. C'est ce qui a déterminé son impression qu'il s'agissait d'un homme. Pas l'allure générale, mais la voix du faux préposé au gaz.
« Oh, flûte !» marmonna Phil.
Adeline était bien d'accord avec lui. « Je ne vous le fais pas dire. Une voix bourrue, ça peut être un homme, mais ça peut aussi être une femme qui déguise sa voix. Vous pensez que cette personne était le tueur à la rose ?
constata Didi. Au tour d'Adeline d'être décontenancée. Pas vous ? Et partant de ce principe, continua lentement Didi, sachant que votre sœur prédit ses agissements, vous êtes désormais convaincu qu'elle se sert de ses super-pouvoirs pour faire le bien plutôt que le mal. L'idée m'a traversé l'esprit. C'est ma sœur. Il est naturel de penser le meilleur de sa famille, alors oui. À moins qu'elle n'ait monté cette histoire de toutes pièces, intervint Didi. Votre sœur, passée maître dans l'art de la manipulation, dont nous avons tout lieu de penser qu'elle est de mèche avec le tueur à la rose, elle a demandé à cette personne de s'introduire dans votre appartement, expliquer à sa marionnette quoi faire exactement. Et ensuite, elle a lâché l'information au moment où ça lui était le plus utile. Au moment où vous commenciez à douter d'elle, disons. Quel moyen plus efficace pour vous ramener à de meilleurs sentiments ? Adeline tressaillit, observa un long silence, puis reconnut. C'est aussi une possibilité. Même si je voudrais avoir un regard objectif sur ma sœur, ça m'étonnerait que j'y arrive. D'où ma présence ici pour partager cette information avec vous. Vous saurez peut-être me dire ce qu'il faut croire.
Se faire passer pour un employé du gaz serait cohérent avec le modus operandi du tueur à la rose, indiqua Phil. Nous savons déjà qu'il ou elle est doué pour s'introduire discrètement chez les gens, comme la fois où il est entré chez Didi en se déguisant en agent de société de surveillance.
Adeline regarda Didi avec des yeux ronds. Il m'a laissé une petite carte très touchante pour me souhaiter un prompt rétablissement, expliqua celle-ci.
Ce qu'il faut retenir, reprit Phil, c'est que Didi a raison. Si votre sœur sait tout cela, c'est peut-être précisément parce qu'elle est en contact avec le tueur et non parce qu'elle est coupée du monde.
Vous avez trouvé comment elle communique avec lui ? Objecta Adeline. Code ? Lettre ? Messager ? Didi fit signe que non.
Mais votre sœur a plus d'un tour dans son sac. C'est ce que vous dites tout le temps. Et puis nous avons été un peu occupés avec ce nouveau meurtre à élucider.
Vous savez qui est la victime ?
La mère de Charlize Garzy.
Laquelle, soit dit en passant, n'était pas vraiment le type de l'assassin. Les deux premières victimes étaient des célibataires encore relativement jeunes. Janet Garzy était une dame âgée, veuve et condamnée par un cancer. Les tueurs en série sont généralement fidèles à un profil de victime. Il fait partie intégrante de leur fantasme. Tant qu'à changer de victime, autant changer le crime lui-même. Donc ce meurtre apparaît comme un intrus, surtout qu'il s'est produit très vite après le deuxième. Il se pourrait qu'il ne soit pas le fruit d'une pulsion profonde, mais d'un calcul froidement rationnel. Il fallait que Janet Garzy meure. Et d'après Charlie, votre sœur serait la coupable.
Shanna ne s'en prend pas aux femmes.
Non, mais ce meurtre serait une excellente manière de s'en prendre à Charlie. De se venger d'un journaliste qui pose tout un tas de questions désagréables sur elle, jusqu'à l'accuser de continuer ses méfaits depuis le fond de sa cellule.
Adeline reposa sa tasse et poussa un profond soupir.
Prouvez-le, dit-elle simplement. On était en train d'y travailler, figurez-vous, avant d'être interrompu.
Pourquoi votre sœur a-t-elle demandé à vous parler ?
Intervint Phil.
Sinon pour monnayer sa liberté.
Oh, elle pense toujours que nous devrions lui accorder une permission de sortie et l'installer dans mon appartement.
Ben voyons, s'exclama Didi.
Mais pas en contrepartie de son aide pour coincer l'assassin, non. Pour qu'elle puisse me protéger et qu'elle puisse, en fait, liquider le tueur. Comme elle dit, elle est douée pour ce genre de choses.
Nouveau silence.
Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Demanda Neil avec nervosité.
J'ai demandé à la directrice des précisions sur les incidents qui ont émaillé la détention de ma sœur. Elle a tué trois fois. La première, peu après son incarcération, une codétenue qui l'avait apparemment agressée. Ce meurtre-là a été mis sur le compte de la légitime défense. La vie a ensuite tranquillement suivi son cours pendant une petite dizaine d'années,
jusqu'au moment où Shanna a tué un surveillant de manière assez barbare. Quelques semaines plus tard, elle zigouillait un autre surveillant, ce qui lui a valu d'être condamnée à passer le restant de ses jours à l'isolement. McKinnon essayait de ne pas trop en dire, mais quand j'ai insisté pour connaître les circonstances de ces deux meurtres, au moment de leur décès, les deux surveillants étaient sous le coup d'une enquête interne pour avoir frayé avec des détenus. Il va de soi que tout rapport sexuel entre un gardien et une prisonnière est interdit. Mais au moins en ce qui concerne le premier, les accusations portées contre lui étaient assez vilaines et concernaient deux détenus du bloc de Shanna. On s'est demandé s'il n'était pas entré dans sa cellule pour faire d'elle une nouvelle victime et si elle n'avait pas résisté, vigoureusement. Elle aurait poignardé un homme qui voulait la violer ? Demanda Didi. C'est une hypothèse. Shanna a refusé de s'expliquer. En fin de compte, comme le surveillant était mort et l'enquête peu concluante, le dossier a été mis aux oubliettes. Certainement aussi parce qu'il aurait terni l'image du personnel pénitentiaire. Sauf que Shanna a récidivé à peine quelques semaines plus tard, ce qui a décidé de son sort. Même si cet autre surveillant avait aussi la réputation d'être entreprenant avec les détenus. Un instant, intervint Neil. Si je résume, votre sœur dit qu'elle a été poussée à tuer. C'est le plus vieux système de défense du monde, non ? De rejeter la faute sur la victime. Adeline confirma. Le regard toujours clair, remarqua Didi. Comme elle l'avait dit, elle cherchait à être objective. Et Donnie Johnson ? Demanda Neil. Un gamin de 12 ans, le nez toujours fourré dans ses livres, d'après tous les témoignages. Il n'a pas pu être une menace pour elle. Sur les photos de police de l'époque, elle est plus grande que lui et clairement plus costaude. Je n'ai pas d'explication pour le meurtre de Donnie, reconnut Adeline. Et Shanna refuse de parler de lui. Même 30 ans après, c'est encore tabou. Donnie Johnson est l'intrus, murmura Didi. Et brusquement, elle posa sa tasse de café et se leva pour se diriger vers le tableau. Si on s'amusait à une petite comparaison. Le tueur à la rose et ses trois victimes d'un côté, Shanna D et ses quatre victimes de l'autre. Nous savons déjà qu'il y a un intrus chez le tueur à la rose, Janet Sgarzi, et un autre chez Shanna D, Donnie Johnson. En temps normal, il n'y aurait pas de quoi en faire tout un plat. Mais quelle est la probabilité que les intrus de deux séries de meurtres appartiennent à la même famille? Un neveu et sa tante. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a aucun lien. Le lien, c'est Charlie Sgarzi, observa Adeline, sans toutefois comprendre où cela les menait. Didi eut un sourire de triomphe. Charles Sgarzi, qui fait quoi en ce moment? Qui enquête sur le meurtre de son cousin, répondit Phil. Conclusion ? Insista Didi. Conclusion, je vais encore devoir faire de la spéléo dans les archives, proféra Neil d'un ton lugubre. Il en était encore à essayer d'exhumer le dossier aridé. Aux dernières nouvelles, celui-ci avait peut-être été égaré pendant le déménagement entre leur ancien QG et leurs nouveaux locaux. Beaucoup de dossiers datant de l'ère pré-informatique avaient connu le même sort. Bingo. Donnez son lot à notre ami l'enquêteur. Voilà notre lien. Même si ces meurtres se produisent aujourd'hui, leur origine remonte à 30 ans. Je vous parie tout ce que vous voulez que les chemins de Donnie Johnson, Shanna D et du tueur à la rose se sont croisés à l'époque. Il nous faut les noms des voisins, des témoins, de l'entourage. On dresse cette liste et on trouve notre assassin. Ou alors, dit Adeline en se levant, on peut se contenter d'attendre que l'assassin vienne à nous. D'après Shanna, il ne pourra pas s'en empêcher. Ma seule existence est un chiffon rouge pour les assassins du monde entier. Vous craignez pour votre sécurité ? Demanda Didi. On peut vous affecter un agent. Vous sauriez tirer d'une seule main ? Oui. Ça fait partie de notre formation au maniement des armes et ces derniers temps, je m'en félicite. Moi, je ne saurais pas. Mon insensibilité à la douleur,
Vous vous souvenez? Elle implique que toute activité dangereuse, même pratiquée à titre d'entraînement, pourrait avoir des conséquences dramatiques. Je ne sais ni me battre, ni me servir d'une arme à feu, ni courir. Vous pourriez m'affecter un agent. Mais aussi étrange que ça puisse paraître, je préférerais ma sœur. Les policiers s'exercent à l'agressivité, mais Shanna en a fait une science. Didi leva les yeux au ciel. Vous voudriez sérieusement qu'on donne une permission de sortie à votre sœur? Naturellement, vous vous rendez compte qu'elle ne se contenterait sans doute pas de vous emprunter votre tenue préférée. Adeline se dirigeait vers la porte. Ce n'est pas parce que la proposition de ma sœur est d'une brutalité et d'une violence hors du commun qu'elle ne vaut pas la peine d'être étudiée. Il faut reconnaître que c'est la dernière chose à laquelle s'attendrait le tueur. À moins, bien sûr, contesta tranquillement Phil, que ce ne soit précisément son objectif depuis le début.